journal, Nicolas Crozel. Bonjour Nicolas.
Bonjour Hélène, bonjour à tous. Attention aux motos dans le rétro. Depuis ce matin, les deux roues sont de nouveau autorisées à remonter les fils des voitures. Expérimentation dans une vingtaine de départements en France, on y revient dans un instant. Dans ce journal également, les dernières nouvelles du coronavirus en France, et notamment en Martinique où le variant Delta flambe, mais où le vaccin fait peur à de nombreux soignants qui le refusent. Et puis nous irons à Tokyo où les filles du basket jouent leur place en quart de finale.
Dans 20 minutes, nous serons avec l'un des plus grands artistes contemporains. Il a fait entrer la BD au musée et se raconte dans un livre d'entretien qui s'appelle « L'homme est un accident ». Anki Bilal, avec nous sur France Inter à 7h50.
France Inter.
Les motos et autres deux roues motorisées ont donc le droit depuis ce matin de rouler entre les fils des voitures.
Et pas encore sur tout le pays, non, mais dans 21 départements, dont ceux de l'Île-de-France. Alors, si on dit que c'est autorisé depuis ce matin, c'est que c'était interdit jusqu'à hier soir et vous ne l'aviez peut-être pas remarqué tellement la pratique est répandue. Une première expérimentation sur 7 départements n'avait pas montré de résultats probants. Cette fois-ci, on passe à la vitesse supérieure. Objectif, faire entrer l'interfile dans le code de la route. Sébastien Sabiron.
Vous pratiquez la circulation interfile ?
Très peu, à cause des sanctions.
Ouais, je savais pas que c'était interdit.
Et comme en témoignent les nombreux deux-roues en interfile sur le périphérique parisien, c'est un peu le flou artistique depuis la fin de la précédente expérimentation, il y a 6 mois. Celle-ci établit des règles claires. Marie Gauthier-Melleret, déléguée interministérielle à la sécurité routière.
Le point noir, c'est souvent la question de la vitesse, puisqu'elle est pratiquée trop vite. L'idée, c'est une vitesse maximale de 50 km/h avec un différentiel maximal de 30 km/h par rapport à celle des véhicules entre lesquels le deux-roues motorisé circule.
L'interfile est autorisé sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central. Parfait, estime ce conducteur de maxi-scooter.
C'est une bonne nouvelle, parce que choisir un deux-roues, déjà à la base, c'est pour aller plus vite. Et si on est obligé de faire la queue derrière les voitures, autant prendre une voiture en fait.
Question de bon sens, juge également la Fédération française des motards en colère. Jean-Marc Bellotti, coordinateur Paris et Petite Couronne.
En termes de sécurité, pour nous c'est évident qu'il faut rouler entre les fils, tout simplement parce que quand on est entre les fils, on a beaucoup plus de visibilité devant nous, et surtout vous savez que dans les bouchons, les distances de sécurité ne sont jamais respectées, et en cas de fort freinage, nous on risque de se retrouver pris en sandwich entre deux voitures, et là c'est très dangereux.
La FFMC qui espère voir l'interfile inscrite au code de la route au terme de cette expérimentation, ce qui permettrait de l'intégrer à la formation de tous les usagers de la route.
Un reportage Sébastien Sabiron.
Le Covid, près de 20 000 nouveaux cas en France hier.
Le nombre de malades à l'hôpital dépasse les 7 500, 312 nouvelles hospitalisations en 24 heures. Le variant Delta continue de se propager, c'est vrai en métropole, ça l'est encore plus en Guadeloupe, à La Réunion, en Martinique. L'île de la Martinique est reconfinée depuis 3 jours, l'hôpital est saturé, les soignants débordés mais pas forcément vaccinés et ça agace les médecins. Reportage Thibault Lefebvre.
Comme 80% du personnel hospitalier, Tania refuse le vaccin.
On ne peut pas m'obliger à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Si je n'ai pas envie, je ne le fais pas. Point.
Cette secrétaire médicale a notamment peur des effets indésirables.
Qui vous dit que si je prends le vaccin, je ne meurs pas après ? J'avais vu une vidéo où une fille qui disait qu'elle avait pris le vaccin et elle a eu plein d'effets secondaires. Il y a beaucoup de trucs.
Un témoignage consulté évidemment sur Internet. Et puis Tania, comme beaucoup de Martiniquais, a une alternative à la vaccination.
Virapic.
Le Virapic, un sirop amer fabriqué à partir d'une plante locale et qui permettrait, selon elle, d'être immunisé.
J'en ai pris jusqu'à maintenant, Dieu merci, que j'ai toujours pas le Covid. Et ceux qui ont eu le Covid, qui ont pris le Virapic, apparemment ça fonctionne. Ils guérissent plus rapidement.
À l'hôpital, le débat est tendu. Les médecins vaccinés, pour 90% d'entre eux, sont accusés par les syndicats de faire du prosélytisme. Le professeur André Cabier est le chef du service infectiologie du CHU. Il concède avoir tenté de convaincre, mais sans succès. La raison, les scandales sanitaires passés, et notamment celui du chlordécone, un pesticide utilisé pour protéger les bananes et qui a empoisonné les sols antillais.
Il y a une défiance vis-à-vis de ce qui vient des autorités. Ce nouveau vaccin, ça pourrait être effectivement, on le lit beaucoup sur les réseaux sociaux, une volonté d'empoisonner une fois de plus la population.
Et pour essayer de comprendre les raisons de cette défiance, l'Agence régionale de santé a lancé une grande enquête en ligne. Les résultats devraient être connus à la rentrée.
Thibault Lefebvre, envoyé spécial de France Inter en Martinique, en métropole. L'heure n'est pas au reconfinement. Le gouvernement mise tout sur le vaccin et le pass sanitaire. Pass qui sera obligatoire dès le 9 août pour aller au restaurant ou au bar, par exemple, si le texte est validé par le Conseil constitutionnel. Pass qui est déjà indispensable pour les loisirs, cinéma, piscine et du coup aussi dans la plupart des campings. Mais on a trouvé quelques exceptions. Les petits campings, ceux qui n'ont ni piscine, ni resto, ni bar. Exemple en Bretagne, aux 2 étoiles de Saint-Briac, près de Saint-Malo, avec le reportage de Lucie Amadieu.
Pour les touristes qui viennent ici, la question du pass sanitaire est essentielle. Rosalie Guillaume est l'adjointe de direction du camping.
Ils nous appellent effectivement pour savoir si le pass sanitaire est obligatoire. On leur dit que non parce que du coup on n'a pas de restauration et de piscine. Ils sont soulagés parce que sinon ils n'auraient pas pu venir si on avait demandé le pass. On se rend compte que finalement beaucoup de personnes n'ont pas.
Julien est originaire des Pays de la Loire. Il n'a pas choisi ce camping par hasard.
Ça fait partie des critères aussi de voir s'il y a le pass sanitaire demandé ou pas. Ça laisse une liberté pour les personnes qui ne souhaitent pas avoir le pass sanitaire. Donc oui, c'est très bien. Et puis au final, il n'y a pas plus de contact entre les gens. Chacun reste chez soi. Les gens respectent les gestes barrières. Donc il n'y a pas de grosses difficultés là-dessus.
Gérard, lui, ne partage pas du tout cet avis. Voir les allées-venues des vacanciers ne le rassure pas. Il s'inquiète surtout pour sa femme qui a des problèmes respiratoire.
Moi, j'aimerais bien qu'on puisse le demander, oui, pourquoi pas. Ça, ça permet de sécuriser un peu le terrain quand même, hein. Bah, de savoir qu'ils sont protégés et puis ça protège aussi les autres.
Avec ou sans passe sanitaire, le camping peut encore accueillir quelques vacanciers. Il reste des emplacements pour planter sa tente ou arrêter sa caravane.
Lucie Amadieu, France Bleu Armorique pour France Inter. Et alors que de nouvelles manifestations ont eu lieu dans le week-end en France contre le passe sanitaire, on va reparler du vaccin et des réticences de certains à 8h20 tout à l'heure dans le grand entretien. Hélène Roussel, vous recevrez Antoine Bristiel, directeur de l'Observatoire de l'opinion de la Fondation Jean Jaurès, et l'historien des sciences Laurent-Henri Vigneault, auteur d'un ouvrage sur les antivax. C'est à 8h20. Puis jamais 203, tiens, l'expression est bien connue, elle pourrait s'appliquer en Allemagne. Le gouvernement allemand compte proposer à partir de septembre une troisième dose de vaccin pour les personnes âgées et vulnérables. Le projet de loi doit être finalisé dans la journée. Il recommande la vaccination des enfants et adolescents âgés de 12 à 17 ans. Renforcer plus encore la lutte contre les violences conjugales en France, Gérald Darmanin annonce ce matin de nouvelles mesures. Le ministre de l'Intérieur donne une interview au journal Le Parisien aujourd'hui en France. L'an dernier, 102 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint, chiffre au plus bas depuis 15 ans. Ce n'est pas une raison de baisser la garde, estime le ministre. Il y a quand même eu plus de 400 000 interventions de police et de gendarmerie. Ça fait 45 chaque heure en France. Désormais, chaque commissariat, chaque brigade de gendarmerie sera dotée d'un officier spécialisé. On ne pourra plus déposer de main courante. Chaque cas sera signalé au procureur.
Stéphanie Fromentin nous en parlait. Il y a de quoi râler contre la météo si vous êtes en vacances en France.
Oui, à part l'extrême sud du pays, peut-être ailleurs l'été est plutôt pourri, de la fraîcheur, pas mal de pluie. Alors si vous aimez les grosses chaleurs, c'est à l'est de l'Europe qu'il vous faut aller. Sicile, Grèce, Turquie sont dans le rouge. Côté mercure, mais ça a aussi des conséquences dramatiques avec des incendies de forêt, des touristes évacués dans plusieurs stations balnéaires en Turquie. En Grèce, le Péloponnèse est aussi la proie des flammes. On atteint des températures records, Martin Delacoux. Le contraste est d'ailleurs saisissant avec la France.
Sur les cartes météo, la différence est frappante. La France, la Belgique ou l'Allemagne sont en bleu, signalant des températures inférieures aux normales. Dans les Balkans, dans le sud de l'Italie ou même en Turquie, c'est du rouge vif. De phénomènes liés, analyse François Gourand, prévisionniste à Météo France.
En météo, on ne sait jamais exactement qui est la poule et qui est l'œuf, hein. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est deux phénomènes de d'air chaud qui voudraient remonter sur les latitudes plus élevées et d'air froid qui descend, en fait, se neutralise en quelque sorte sur l'ouest de l'Europe. En fait, ça fait remonter un peu mécaniquement sur l'est du continent et particulièrement donc sur le sud-est de l'air plus chaud.
Bien sûr, ces pays sont habitués aux vagues de chaleur, mais ce phénomène dure dans le temps et surtout, les températures sont exceptionnellement hautes. François Gourand.
Là, on parle quand même de températures qui, par endroit, pourraient atteindre entre la Grèce et l'ouest de la Turquie les 44 ou 45 degrés et là, très clairement, c'est des valeurs rares, même sur ces régions.
Record également du côté des températures minimales. Samedi, le mercure est resté toute la nuit au-dessus des 34,3 degrés sur l'île de Kalymnos, en Grèce, du jamais vu pour un mois de juillet en Europe.
Une vague de chaleur qui frappe aussi le Groenland avec un record enregistré il y a quelques jours, 23 degrés quand il fait habituellement 13 l'été. Conséquence, une fonte massive de la calotte glaciaire. 8 milliards de tonnes de glace qui fondent chaque jour, ça fait en gros un cube de 2 km de côté.
L'athlète biélorusse Kristina Tsimanouskaya est en sécurité dans un hôtel de Tokyo.
Précision ce matin du CIO, le Comité international olympique. Après l'alerte hier, la sprinteuse avait été conduite de force à l'aéroport par des membres de sa délégation qui voulaient la forcer à rentrer au pays. Une disgrâce parce qu'elle a refusé de s'aligner en catastrophe sur le relais 4 x 400 mètres en remplacement d'autres athlètes qui n'avaient pas effectué suffisamment de contrôle antidopage. Tsimanouskaya devait à l'origine disputer aujourd'hui les séries du 200 mètres. Plusieurs agences, dont le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, ont pris contact avec elle. Autre image de la nuit, plus heureuse, hein, cette fois, c'est le retour des médaillés français, notamment de la formidable équipe de France de judo, emmenée par Clarisse Abeneguinou, pardon, et Teddy Riner. Les Français se sont posés à Roissy à 4h30 cette nuit, accueillis par leur famille et une poignée de supporters noctambules pour les autres. Rendez-vous à 13h au Trocadéro tout à l'heure à Paris. À Tokyo, l'aventure continue. En revanche, pour les handballeuses françaises qualifiées en quart de finale grâce à leur victoire tout à l'heure contre le Brésil. Et actuellement, ce sont les basketteuses qui jouent leur survie face aux Américaines. Bonjour Xavier Monferrand.
Bonjour Nicolas.
Comment ça se passe ?
Eh bien écoutez, les Françaises perdent actuellement de 6 points. Sandrine Gruda est sur la ligne des lancers francs et elle ramène l'écart à 5 points, 60 à 55 alors qu'il reste 4 minutes 15 à jouer dans le troisième quart-temps. L'enjeu, il est très simple pour les Françaises. Elles doivent soit s'imposer, soit perdre de moins de 14 points pour se qualifier pour les quarts de finale. Mais en face, eh bien il y a tout simplement une équipe américaine qui a remporté les 6 dernières éditions des Jeux Olympiques avec des joueuses immenses comme Brittney Griner qui vient par exemple d'inscrire 2 points. Elle culmine à 2m03. C'est donc très difficile à défendre pour les Françaises, notamment près du panier, mais les Françaises qui ont été très adroites en première période et qui là ont un peu resserré les boulons en deuxième période en défense, ce qui leur permet de maintenir le score 62 à 55 pour les Américaines, 7 points d'avance. Il reste 3 minutes 45 à jouer dans le troisième quart-temps.
Et c'était Alexandre Berthaud, merci beaucoup. À suivre aujourd'hui également Samir Aïd Saïd, notre porte-drapeau aux anneaux à 10h. Également ce matin, les Bleus en équitation avec la dernière épreuve du concours complet, le saut d'obstacle. Notez enfin le premier titre de l'histoire du Porto Rico en athlétisme avec Jasmine Camacho-Quinn qui a remporté le 100 mètres. Et puis il n'y a pas que les Jeux. À 5 jours maintenant de la reprise de la Ligue 1 de football, Lille, le champion en titre, a remporté hier soir le trophée des champions. Victoire des Lillois 1-0 face au Paris Saint-Germain. Le PSG n'avait plus perdu le trophée des champions depuis 8 ans. Le match d'hier se jouait à Tel Aviv.
C'était le journal de Nicolas Crozel. Merci à vous.